Brunet, les méfaits de la poésie. Il y a des vies qu'on ne veut pas représenter. Elles sont d'un autre plan, d'une autre dimension. Nous avons beau les frôler, elles sont d'un autre monde. Il y a des êtres qui semblent sortir d'un livre, d'une histoire fantastique. Il y a des maisons de pierre palpables et dont les tuiles ne peuvent tomber sur la tête, mais qui font partie du songe de la veille, comme si le village disparaissait et que se dressait sur l'écran une masure et ses accessoires de cinéma. Nous ne sommes plus à Saint-Vaterne, c'est Hollywood qui a pris sa place. Pourtant, au village qu'adopta mon enfance, il la naturalisa presque. La vieille Audet, pendant ses baudettes, son neveu et sa maison avaient la réalité et le quotidien d'une institution. Sans bruit, ils s'emboîtaient dans le puzzle villageois, et ce n'étaient des pièces détachées que si on les détachait. La petite vieille Baudette, pour pittoresque qu'elle fût, était une dame. Son langage détonnait, sa phrase et ses proprettes, autant que l'était peu sa personne menue. Elle n'oubliait jamais une négation. Et lorsqu'elle vous présentait la main sale, elle avait grand air. Trois fois par semaine, chez le boucher, on l'entendait. Pour 6 sous seulement, monsieur Vaquin, je n'en veux que pour 10 sous. Mais monsieur Gustave, qu'est-ce qu'il va manger? Moi, mon neveu, monsieur Vaquin, est au régime végétarien, ne vous l'avais-je pas déjà dit? Ce neveu, Gustave, l'attendait à la porte. Elle lui remettait le petit paquet et il se retournait à la maison en passant par l'église. Mademoiselle Baudette y touchait l'harmonium 2 fois par jour. Elle avait vérifié les touches, faisait 5 minutes de gamme, comme pour s'assurer qu'on n'avait pas volé l'instrument. Mademoiselle Baudette était la plus craintive des femmes et ne pouvait pourtant jamais elle ne parlait d'argent. Non, non, elle avait demandé pourtant que lorsqu'on lui versa un supplément pour sa police et contre le feu et les voleurs. Du reste, Mademoiselle Baudette avait aussi l'oreille fine. Et sa peur, c'est que l'humidité de l'église et de la rivière proche n'attaqua son monument. Elle le palpait et l'auscultait 2 fois par jour. Suivi de son neveu, il marchait toujours à la file indienne. Sorte de géant au goitre saillant et au long point lourd, il lui portait le paquet minuscule et elle disparaissait dans la maison, branlante, jusqu'à l'heure d'adoration de Mademoiselle Daudet et Gustave. l'accompagnait encore et sortait cette fois son livre de méditation. La maison, c'était une vaste construction de pierre noire, aux interstices bourrés de mousse, comme si on lui calfeutrait dans les couleurs fraîches et semblables aux rides de Mademoiselle Baudette, qui courait une masse verdâtre. Sur la façade, toutes les fenêtres étaient closes. Le contrevent pourri, sauf une, au carreau fêlé. À l'étage, il y avait comme des moignons, des bouts de bois, des écorces, des amorces d'un escalier écroulé. Les pignons et le toit disparaissaient aussi sous la mousse. Et l'on songeait, je ne sais pourquoi, à un crâne malsain. De grands arbres cachaient ces ruines que l'on entrevoyait que lorsque l'orage battait les murs, les ramures. Et c'était alors un spectacle qui touchait à l'indécence. Et d'un côté, sous un saule pleureur, le puits, avec sa margelle, mettait en exergue un peu de poésie. Et plus loin, il y avait aussi une mare noire où les canards nageaient. Leur couac et le battement d'ailes étaient le seul bruit avec les oiseaux dans les branches qui peuplaient ce domaine abandonné. Personne n'y pénétrait pour vivre, pour ajouter à son traitement d'organiste et à ses rentes insuffisantes, Mademoiselle Daudette donnait des leçons de piano. Mais c'était à domicile, jamais chez elle. Quand on n'avait pas de piano, Mademoiselle Baudette faisait taper le bois de la table, déliant ainsi les doigts, jusqu'au jour où le paysan ou le marchand se décida à acheter un instrument. Pour rien au monde, elle n'aurait reçu chez elle un nouveau curé qui ne connaissait pas ses habitudes, s'était avisé de commencer sa visite de paroisse par Mademoiselle Baudaudette. Il l'avait frappé, martelé, sans résultat. Pensant que la vieille n'était pas chez elle, il était reparti. Se retournant tout à coup, il vit dans l'unique fenêtre la gueule de Gustave qui se tordait dans un rictus. Effrayé, voyant qu'il y avait là quelque maladie, on ne sait jamais avec ces vieilles gens, et que l'idiot était trop simple pour demander secours, il avait sonné chez le médecin. La vieille Baudet est malade. La vieille Baudet n'est jamais malade, dit le médecin. Elle nous enterrera tous. Le médecin s'était cependant mis en route avec le curé. Et dans l'église, ils rencontrèrent la tante et le neveu. Je ne suis pas installée pour recevoir monsieur le curé, et je viens moi-même vous payer ma dîme. Mais ce n'est pas pour ça. Je sais bien que vous n'êtes pas en moyen. Mais j'ai toujours payé ma dîme, grâce à Dieu. Et Dieu me fera toujours la grâce de la payer, monsieur le curé. Allez, venez, Gustave. Ce qu'il y avait de drôle, c'est que Gustave, cette fois, portait la bourse de sa tante. Une ample sacoche de peau verte, un fermoir de cuivre. Cet été-là, qui fut torride et qui brûla les moissons, quelques-uns purent voir, l'après-midi, lorsqu'on est au champ ou à l'ombre de la maison fermée, la vieille Baudette qui faisait la classe à Gustave, assis sur un banc de bois. Ils épelaient le syllabaire. Béaba, béubu. Elle avait une petite règle pour taper les doigts de ce grand garçon qui, à tout propos, éclatait en crise de larmes. Je peux pas, ma tante. Ce mot de six pieds, il avait 16 ans. Faisait jaillir difficilement les mots de sa voix basse. Et quelques mots qu'il savait et qu'il pouvait retenir, les mots qui surgissaient, oubliés et mêlés, comme d'un tuyau bouché d'où l'eau sort tout à coup. Puis ils entraient et on ne les voyait plus jusqu'à l'heure d'adoration de la tante. Un jour, à l'église, elle était plongée dans ses méditations lorsque elle vit son neveu qui puisait dans une boîte et allait allumer les cierges devant l'autel de Sainte-Anne. « Gustave, Gustave, que faites-vous là ? Regardez comme c'est beau, ma tante ! C'est ma fête-Dieu ! » Et il s'agenouillait dévotement, les mains jointes, devant les cierges. « Venez, Gustave, vous avez troublé ma méditation ! » D'un souffle, elle courut, elle éteignit les cierges un à un, puis avec les palpitations, croyant tomber, elle redevint à son banc, s'asseoir. « Vous me ferez mourir, Gustave, à genoux, et demander pardon à Dieu. » Une autre fois, elle le surprit avec des gras grand ricaneur qui lançait des cailloux dans la mare. Elle avait le sang au visage. Ses deux mains pressaient son cœur qui battait à éclater. Et dans un souffle, elle dit « Petit voyou, petit voleur, allez-vous-en !» Détachant une branche, elle en frappa Gustave, qu'elle ramena pleurnichant à la maison. Le soir, elle le conduisit au curé. « Je suis responsable devant Dieu, monsieur le curé. Vous allez confesser cet enfant qui se donne. » Maintenant, lorsqu'elle avait donné ses leçons, elle laissait Gustave dans la cuisine du presbytère avec la vieille Hermina, qu'elle appelait Rose, Rose de Lima, N'est-il pas son nom exact? Pour ses habitants, estropie tous les mots. Je ne l'ai que pour une heure, Gustave. Vous allez peler les patates, éplucher le blé d'Inde. Le travail manuel ne déshonore pas. Il va de soi qu'à la messe, au vêpres, au salut, Gustave montait au jubé avec sa tante. Elle lui parlait, elle interrompait parfois sa musique. À genoux, Gustave, à genoux. Mais vous n'aurez donc jamais de respect. Elle forçait le garçon qui ne savait pas lire à se munir d'un missel. Et souvent, il s'agenouillait. S'il ne s'agenouillait pas tant, c'est qu'il contemplait avec sourire de bonheur les images, le petit Jésus dans sa crèche, l'Immaculée Conception avec Bernadette qui tient un cierge. Il y avait beaucoup d'images. Et chaque fois qu'il rencontrait le curé, « Oh, images, images !» Cet été-là, il y eut encore un cirque à Montréal. Des affiches multicolores attiraient les curieux, singulièrement sur le mur de Peterborough, le marchand général. Les jours que Gustave accompagnait sa tante chez le marchand, il la quittait pour contempler ses autres images. Elle se retournait, lui touchait le bras. « Venez, Gustave, je suis pressé. » Il était figé. « Un cirque, ma tante, un cirque beau, beau !» Ses grands yeux s'écarquillaient. Au dîner, il cessait de manger. Un cirque, ma tante, beau, beau. Où avait-il pu surprendre cette idée du cirque? Des annonces? Et comment ces idées associaient-elles dans cette tête fruste? Il ne voyait personne. Faut croire qu'il était échappé un moment et que des gamins lui avaient décrit le cirque. Il tournait sans cesse dans la maison et sans cesse il abordait sa tante. « Un cirque, ma tante, beau, beau !» Elle essaya de l'occuper. Toute une journée, elle se promena avec lui derrière la maison, près de la mare, lui laissant ramasser le bois sec qu'il transportait dans la cave du bois pour allumer le poêle. Il la suivait, la précédait, mais l'idiot était visiblement ailleurs. Alors elle lui conta des histoires. Oh, c'était contre ses principes. Et pour s'excuser, elle ajoutait au conte de longues moralités. Quand l'histoire était belle, Gustave s'écriait « Oh, comme ça, un cirque, beau, beau !» Le jour du cirque arriva, et l'omnibus qui faisait la navette entre le village et le chemin de fer dut faire deux voyages pour amener les jeunes gens et quelques hommes d'âge qui était tenté d'aller voir ça. Gustave, qui avait vu passer la dernière voiture et qui avait deviné, pleurait enfermé dans sa chambre, si bien que Mademoiselle Daudet avait cru bon d'aller rechercher le curé. Il faut exorciser. Elle avait prononcé le mot avec emphase. Il faut exorciser Gustave, monsieur le curé. Il faut l'exorciser de ses pensées morbides. Et si moi je l'envoyais au cirque, ce pauvre enfant, avec l'hermina, par exemple, que ça distraira, si je l'envoyais pour le récompenser d'avoir pelé mes patates et d'avoir poussé mon blé d'Inde, ça lui ferait certainement plaisir à ce pauvre enfant. Vous n'y pensez pas, monsieur le curé. Mon neveu au cirque, ben, il n'y a pas de mal. Mais j'ai 63 ans, monsieur le curé, et j'ai jamais mis les pieds au spectacle. Elle disait spectacle d'une voix flûtée et qui fleurait des intentions, des significations surannées. C'est bon, je vais essayer de consoler Gustave. J'ai des images pour lui. Gustave regarda à peine les images. Il pleurait. Un cirque beau, monsieur le curé, c'est beau. Tu ne veux pas d'images? Alors je vais les remporter. Non, 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 mettez-les là. Et il indiquait le bureau et se remettait à pleurer. C'était une scène terrible, pénible et presque grotesque de voir et d'entendre pleurer ce lourd garçon que les sanglots secouaient. Sangloâtres se soulevaient et alors il devenait hideux. Le prêtre en avait pitié. Il y a un autre cirque le mois prochain. Je te le promets. Oh, je déciderai sa tante en la prenant petit à petit. Il souriait d'un air fin. Et cependant, la tante ne bronchait pas. En quittant la maison, le curé ne put que dire: je vous assure, mademoiselle Bosette, que Gustave fait pitié. Je reviendrai ce soir et j'essaierai quelque chose. Lorsqu'il revint, ce fut trop tard. La porte de la maison, à son ahurissement, était grande ouverte. Tout à l'heure, à l'après-midi, elle était fermée comme une porte de prison. Un drame, un mélodrame s'annonçait. Il trouva mademoiselle Baudette effondrée dans un fauteuil, se massant la poitrine à deux mains. Oh, monsieur! Mon cœur, monsieur le curé. Il s'approcha, elle haletait, et suait à grosses gouttes, des gouttes qui sur ses rides profondes se mêlaient à la crasse. Cette petite vieille, recroquevillée dans un tas de guenilles invraisemblables, vous donnait le haut le cœur. Autour d'elle, sur le parquet couvert d'un lambeau de tapis, les murs lézardés avec des gravures accrochées de guingois, où le verre manquait, de la poussière, une sorte de poudre s'amassait, une poudre presque organique. La coquille brisée et sale d'une vieille sale et triste. Et dans le remugle renfermé, une odeur surie qui était celle de mademoiselle Baudet. Le curé prit sur lui d'ouvrir la fenêtre. Elle fit un signe. Non, pas la fenêtre, cela la ferait mourir. Oh, il faut faire de l'air. Et tout de suite, le parfum des roses flotta lamentablement parmi les relents ignobles, sans s'y mêler. C'était le rosier près du puits. J'ai honte, monsieur le curé, j'ai honte. Peu à peu, par petits hoquets de vieille, elle lui conta ce qui était arrivé, répétant toujours « Oh, j'ai honte, monsieur le curé !» Elle l'avait surpris, qui fouillait dans la cassette où elle cachait ses pauvres sous. « J'ai été saisi, je ne peux rien dire, d'abord. J'ai honte, monsieur le curé !» Elle l'avait giflé. Il n'avait pas desserré le poing qui s'agrippait au billet de banque. Et, sans chapeau, il était parti en courant à travers champs. Le cirque, beau, beau, je vais au cirque. Je vais au cirque, ma tante. Il fallut faire appel au médecin qui dit au curé, « Oh, elle va s'éteindre comme une lampe qui n'a plus d'huile. » On fit une battue, on chercha à gauche, à droite, sans résultat. Gustave ne pouvait pas être loin pourtant. Il ne sortait jamais, ne connaissait d'autre chemin que le chemin du roi, et pas plus loin que le village encore. On chercha toute la nuit, on chercha une partie du jour, le lendemain, en vain. La vieille baissait visiblement, on dut l'administrer. Elle ne savait que dire « J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte de paraître devant le bon Dieu. » Le soir, Gustave arriva, souriant, par l'omnibus. Il avait l'air content de lui quand il descendit de l'omnibus. On n'avait pas osé l'avertir. Le curé lui-même, au bruit de la voiture qui s'arrêta, alla à la porte. « C'est toi, Gustave ? Oh, tu es sa tante ?»« Le cirque ! Oh, c'était beau, monsieur le curé ! Beau, beau ! Mes petits voleurs, pourquoi tu fais ça ?» Il était déjà dans la chambre. Et de voir sa tante toute blanche, qui remet à peine les lèvres, effraya Gustave, qui se blottit tout tremblant dans un coin de la pièce. Il regardait le lit fixement, et ses yeux s'agrandissaient. Tu vois ce que tu as fait, Gustave? Mais pourquoi tu fais ça? Ça me tentait, monsieur le curé, ça me tentait. Les yeux de la vieille se révulsaient. Il eut un grand soupir interminable, comme si la mémoire se disloquait. Et Gustave claquait des dents.